Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi les infos de l'Indonésie qui sera continué avec l'histoire aujourd'hui et la mise au point. La revue suivante, comme tous les jours, nous allons vous présenter le magazine culturel et ensuite l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter la rubrique courrier et musique. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. On se retrouve encore dans le journal d'aujourd'hui. Dans l'édition du 16 juillet 2017, nous allons vous mener le journal de la ministre de coordination pour le développement humain et culturel de la République d'Indonésie. La journée nationale de la planification familiale montre l'importance de la famille. L'ambassadeur de France espère le développement de la coopération française-indonésienne. Bengkulu organise le triathlon de navires de guerre. L'Arabie est l'apport de l'entreprise pour les produits de Garut. Chers auditeurs et auditrices, voici le journal complet. La ministre de coordination pour le développement humain et culturel de la République de l'Indonésie, Puan Maharani, a dit que la commémoration de la 24e journée nationale de la planification familiale 2017 pouvait devenir un moyen de l'importance de la famille pour tout le peuple de l'Indonésie. On a besoin de la synergie entre le gouvernement central et les gouvernements locaux dans le développement vers le bien-être du peuple. Il a été déclaré par la ministre Puan Maharani à la commémoration de la 24e Journée nationale de la planification familiale 2017 dans la province de Bandar Lampung, samedi le 15 juillet. Puan Maharani a déclaré que le développement de l'infrastructure actuelle doit être en conformité avec le développement des ressources humaines. Elle espère que les ressources humaines seraient plus en concurrence en Indonésie et aussi dans le monde international. Puan Maharani croit que si la famille est forte, socialement, économiquement et culturellement, les enfants peuvent vivre de façon indépendante, prospère et heureux. L'ambassadeur français en Indonésie, Jean-Charles Bertonnet, souhaite que l'Indonésie et la France puissent travailler plus dur pour améliorer les relations entre les deux pays. Cela a été déclaré par l'ambassadeur en marge de la fête nationale française le 14 juillet, vendredi à Jakarta. Il a souligné la distance assez loin entre la France et l'Indonésie, ce qui rend difficile les hommes d'affaires en France pour être en mesure de connaître l'Indonésie. Il a également souhaité que le gouvernement indonésien puisse répondre aux besoins des investisseurs de la France par la création de la facilité d'investissement dans le pays. Les deux parties doivent travailler dur. Notamment, l'Indonésie est très loin de la France. Par conséquent, beaucoup de hommes d'affaires français ne connaissent pas l'Indonésie. Ils doivent venir en Indonésie plus souvent pour comprendre les marchés ici Et du côté indonésien, je pense que vous pouvez modifier quelques règles qui peuvent rendre le climat des affaires plus souple afin de faciliter l'investissement des entreprises françaises. Selon l'ambassadeur Jean-Charles Bertonnet, l'Indonésie est un pays qui est très diversifié et ouvert à l'investissement de la France. L'Indonésie a également un bon climat de tolérance où la diversité religieuse et ethnique peut être gérée de façon positive. En outre, il a exprimé son désir de visiter des régions en Indonésie pour explorer les potentiels du tourisme, ainsi que de découvrir le potentiel d'expansion de la coopération entre l'Indonésie et la France. Les provinces de Bengkulu organisent le premier événement de triathlon en Indonésie à partir du navire de guerre KRI Banda Aceh 593 le 22 juillet 2017 et peut-être la première fois dans le monde, a déclaré le président du comité triathlon 2017 Fajar Rusdianto à Bengkulu samedi. Cet événement multisport est participé par environ 160 participants de l'intérieur et de l'étranger. Il espère Bengkulu Triathlon devient un événement annuel en raison de l'enthousiasme des participants dans la course avec des prix qui touchent près de 200 millions de rupias. L'ambassade de l'Indonésie en Arabie Saoudite a déclaré que l'Arabie Saoudite ouvrait des opportunités, des affaires pour des produits de Garut. Cela a été dit par l'ambassadeur adjoint de l'Indonésie en Arabie Saoudite, Sunarko, après avoir rencontré la région de Garut, Rudi Gunawan, à Garut, Java Ouest. Le gouvernement de l'Indonésie et l'Arabie Saoudite ont des bonnes relations. Par conséquent, devient l'occasion de travailler dans différents secteurs. En Arabie, il y a assez nombreux citoyens indonésiens, y compris les gens de Garut, qui travaillent dans le secteur formel et informel, qui peuvent marcher les produits de Garut. De divers types de tourisme Garut peuvent également être promus en Arabie. L'ambassade d'Indonésie en Arabie Saoudite, selon Sunarko, est prêt à promouvoir et participer à l'exposition des produits de Garut en Arabie Saoudite. Chers auditeurs et auditrices, voilà le journal d'aujourd'hui. C'est l'édition de 16 juillet 2017.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore dans la rubrique de la nouvelle de l'Indonésie, qui vous présente des diverses informations intéressantes hebdomadaires à travers de l'Indonésie. La première nouvelle vient de Denpasar, Bali. Bentara Budaya Bali, l'institution culturelle non lucrative Kompas Gramedia à Ketewel, la région Gianyar, fait une collaboration avec l'ambassade de l'Australie en Indonésie et le consulat général d'Australie à Denpasar ont organisé un atelier et une collaboration de street art. La maîtresse de la scène, Juwita Lasut, jeudi dernier à Denpasar, a déclaré que ses activités ont présenté un artiste indigène aborigène, Jan Damarakad. Juwita a expliqué que dans ses activités qui sont ouvertes au grand public, Jan Damarakad collaborerait avec des artistes des membres d'une communauté locale de street art, la communauté Jamur. Dans ses plusieurs peintures, Jan Damarakad exprime l'esprit humain qui a soif de la paix, la réflexion de l'espoir des opprimés ou de la minorité. Cependant, ses œuvres remplissent des couleurs convaincantes, avec des valeurs universelles qui connectent tous les mondes à travers des nations. Ces activités marquent une célébration de l'histoire, la culture et les réalisations des aborigènes et Torres Strait Islanders, ainsi que la campagne de l'ambassade d'Australie qui met en évidence la diversité culturelle de l'Australie. La nouvelle suivante vient de Bogor, Java West. La police de Bogor offre des repas réduits servis par 20 marchandes aux résidents, je voulais dire au public, à la 71e anniversaire de la police nationale de la République de l'Indonésie à Makodim, rue Sudirman, lundi. Les repas qui étaient offerts sont entre autres ketoprak, bakso, siomay, etc. Le commissaire de la police, Nono Darsono, en tant que le dirigeant de la cérémonie, a dit que les marchands ont offert 200 plats de repas gratuits pour ceux qui participaient à la cérémonie du 71e anniversaire de la police nationale. La célébration était aussi animée par plusieurs attractions intéressantes comme le spectacle de police junior et un défilé de 1300 personnels policiers de toute institution. La dernière nouvelle vient de Surabaya, Java Est. Le Conseil régional de la gestion et d'éducation islamique de l'Indonésie, ou Ikatan Pesantren Indonesia, ou IPI de Java Est, a formé l'éducation islamique digitale dans le cadre de la lutte contre le radicalisme qui a commencé à se développer dans les médias sociaux ou l'Internet. Le chef de IPI, Zaini Ahmad, a dit qu'avec cette forme digitale, les élèves pourraient profiter de la technologie pour leurs études. Ensuite, pas seulement cela, l'éducation islamique digitale pourrait aussi minimaliser le radicalisme. Pour réaliser cet objectif, les écoles islamiques doivent travailler ensemble avec des experts de technologie issus des universités de bonne qualité. Aujourd'hui, IPI a déjà une page qui contient certaines études et leçons de l'islam digitalisé apprises à l'école par des élèves comme, entre autres, le livre jaune, le livre Ihya ul-Muddin, le livre Akida et les autres à télécharger. Chers auditeurs, voilà la nouvelle de l'Indonésie.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore dans la rubrique de l'histoire d'aujourd'hui, dans l'édition du 16 juillet. Passons tout de suite au 16 juillet 1945. La première expérience nucléaire menée près d'Alamogordo, Nouveau-Mexique, États-Unis. Trinity était en essai des bombes atomiques nucléaires pendant le projet Manhattan, ou Manhattan Project. Il était un projet de recherche et de développement à la Seconde Guerre mondiale pour développer les premières armes nucléaires. La bombe, qui pèse 19 kilotonnes, contenait le plutonium, le même élément contenu dans la bombe de Nagasaki. L'explosion de cette bombe a fait un cratère de 3 mètres de profondeur et un rayon de 330 mètres. Le nuage de cette bombe a grandi jusqu'à la hauteur de 16 000 mètres et les vagues de choc peuvent se faire sentir jusqu'à la loin de 160 km. La région d'Alamogordo contient encore des éléments radioactifs jusqu'au présent. Chers auditeurs, nous passons maintenant au 16 juillet 1969, au lancement de la mission Apollo 11. Apollo 11 était la première mission spatiale de NASA qui a réussi à amener l'humain à la Lune et retour en toute sécurité. Apollo 11 a été lancé le 16 juillet 1969 en utilisant la fusée Saturn V et il est arrivé à la Lune le 20 juillet de la même année. Ce vaisseau spatial est habité par Neil Armstrong, Edwin Aldrin et Michael Collins. Apollo 11 a réussi à réaliser l'ambition du président américain John F. Kennedy qui voulait envoyer les humains sur la Lune et retourner à la Terre. La suite, le 16 juillet 1979, Saddam Hussein est devenu le président de l'Irak. Saddam Hussein Abdelmajid al-Tikriti était le président de l'Irak dans la période du 16 juillet 1979 jusqu'au 9 avril 2003. Son règne a pris fin après que l'Irak a été attaqué par une coalition dirigée par les États-Unis en 2003. En tant que membre clé du parti Baas irakien, qui prônait le panarabisme laïque, la modernisation économique et le socialisme arabe, Saddam a joué un rôle important dans le coup d'État 1968. En tant que président, Saddam a créé un gouvernement autoritaire et a maintenu son pouvoir par la guerre entre l'Iran et l'Irak et la guerre du Golfe. Alors qu'il est considéré comme un héros populaire parmi de nombreux Arabes pour avoir osé défier l'Israël et les États-Unis, certaines personnes de la communauté internationale ont continué de le voir avec suspicion. Chers auditeurs et auditrices, voilà l'histoire d'aujourd'hui de l'édition du 16 juillet. Au revoir.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Le président Joko Widodo a souhaité l'existence de l'Assemblée de Dikr au Bulawayo puisse augmenter les relations entre le peuple et le gouvernement. Cela a été dit par le président dans son discours lors de la réunion nationale du Conseil de Dikr au Bulawayo à l'hôtel Borobudur, Jakarta, jeudi le 13 juillet. Le président estime que la coopération entre le gouvernement et les personnes peut soutenir de nombreux aspects, y compris dans l'économie du peuple. Ce programme sera mis en œuvre afin de stimuler l'économie du pays. Dans son discours, le président Joko Widodo a également confirmé que l'islam radical n'est pas l'islam en Indonésie. Aujourd'hui, l'Indonésie devient un modèle d'autres nations dans le monde dans son succès de la gestion de la pluralité. La fierté est le résultat de la direction qui est enseignée par les ulémas dans l'enseignement de l'islam qui donne la race au monde ou rahmatan lil alamin. En outre, les ulémas ont également réussi à enseigner aux personnes afin qu'elles puissent être mises en œuvre dans la vie nationale et de l'État. Président Jokowi Dodo a également mentionné que la direction des ulémas ont également réussi à réaliser un islam modéré et poli, et non l'islam radical. Parce que selon le président, l'islam radical n'est pas l'islam en Indonésie.
Karena itu kita harus berusaha bagaimana menyatukan ini.
L'orientation étant donnée par les ulémas qui nous fait jusqu'à maintenant en harmonie dans la diversité, le guide pour réaliser l'islam qui est wasatiyah, modéré et poli, n'est pas l'islam dur et radical. L'islam radical n'est pas l'islam du conseil des ulémas indonésiens. L'islam radical n'est pas l'islam en Indonésie. À cette occasion, le président a également invité tous les musulmans à revenir à l'esprit d'assistance mutuelle dans tous les aspects de la vie afin de réaliser le souverain indonésien, la personnalité juste et prospère. Pendant ce temps, lors de l'ouverture de la réunion nationale, Rais Am du conseil de Nadlatul Ulama, Ma'ruf Amin, a expliqué sur la responsabilité des ulamas. Il espérait que l'assemblée Ubul Watan Zikri peut être un moyen de rassemblement des ulamas, le gouvernement et le peuple. L'objectif est qu'ils peuvent maintenir l'intégrité et l'unité de la nation indonésienne. Mais selon lui, l'intégrité du peuple indonésien a commencé à interférer avec les groupes radicaux qui veulent se séparer de l'unité de la nation. Par conséquent, il a souligné l'importance de l'effort de dialogue et de mémoire pour maintenir l'unité de la nation. Majlis Zikir Hubul Watan a tenu une réunion nationale des ulémas indonésiens sur le thème « Renforcement de la fondation islamique du nationalisme indonésien » à l'hôtel Borobudur Jakarta jeudi le 13 juillet et vendredi le 14 juillet. Environ 700 ulémas de différentes régions et en Indonésie ont y assisté, y compris la 5e présidente indonésienne Megawati Sukarnoputri, le président de l'agence du renseignement Budi Gunawan et le président du Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj. Chers auditeurs et auditrices, voilà la mise au point de la semaine.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglusmar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglusmar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglusmar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglusmar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie. Oh,
des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore dans la rubrique Persona Indonesia ou le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à voyager à l'île Flores, dans la province de Nusa Tenggara Timur. Donc, restez toujours avec nous à RRI, Service International, la voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, l'île Flores possède plusieurs endroits touristiques qui représentent la beauté naturelle de l'Indonésie. Dans cette île, qui se trouve à la ville de Maumere, la capitale du ville Régence de Sika. Comme d'autres places à l'île Flores, la ville Maumere possède également la beauté naturelle étant très magnifique. Outre par la beauté naturelle, cette ville offre aussi le tourisme religieux et le tourisme culturel. La majorité des habitants ici est chrétien. Alors, pour certaines personnes, cette ville est parfaite pour le tourisme religieux. L'endroit qui est célèbre comme un tourisme spirituel en ville Maumere s'appelle Bukit Tanjung Kajaluwu. Chers amis, vous pouvez atteindre Maumere en voiture de la Labuan Bajo. Il y a beaucoup de locations de voiture pour aller à Maumere. La distance de Maumere vers Bukit Tanjung Kajaluwu est 150 km pour 2 heures de voyage. Vous allez parcourir la côte de Maumere du nord vers l'ouest. Le paysage de collines, des arbres et des pâturages, tout vert, vont éblouir vos yeux, surtout pendant la saison des pluies. En arrivant à Bukit Tanjung Kajaluwu, les touristes peuvent garer leur voiture à côté de la route car il n'y a pas encore de place de parking ici. Pour atteindre le sommet de Bukit Tanjung, les touristes doivent passer d'abord 300 pas d'escalier. Au milieu d'escalade, veuillez voir le paysage derrière vous. Vous verrez, la combinaison des paysages de la mer et le ciel bleu étant très beau. La mer de Tanjung Kajaluwu est entouré par des falaises rocheuses et cela rend plus de beauté à la plage. En arrivant au sommet, vous allez voir une énorme statue de croix. C'est la raison de laquelle on l'appelle aussi Bukit Salib ou en français la colline de croix. Dans certains moments, les chrétiens font des activités religieuses à côté de la statue de croix blanche. Le sable blanc, les falaises rocheuses et la mer bleue deviennent la voûte d'arrière-plan de cette grande statue du roi, dont cette place est souvent appelée le parc d'Éden. Bukit Tanjung Kajaluwu est aussi connu par la beauté de la couche du soleil ou le sunset. Par conséquent, cette colline sera plus animée lorsque le début d'après-midi. Chers amis, si vous êtes intéressés à voir le statue du Grand Roi ou bien à participer aux activités religieuses, étant entouré par le beau paysage, veuillez voyager à Bukit Tanjung Kajaluwu, à la ville Maumere, à l'île Flores. Thank you. Chers auditeurs et auditrices, voilà cette édition de Pesona Indonesia d'aujourd'hui, dont le sujet est Bukit Tanjung Kadialuru. On se retrouve encore demain avec des sujets aussi intéressants dans la rubrique Pesona Indonesia. Sampai jumpa.
Sur les informations actuelles.
Chers auditeurs et auditrices de la Voix de l'Indonésie, moi, Wimana Takusuma, je suis ravi de vous revoir dans la rubrique Indonésie en couleur. Dans cette édition, le thème abordé est « Le gouvernement va nommer 4000 îles ». Restez toujours avec nous à www.voi.co.id. En tant qu'un pays maritime et un archipel, le gouvernement indonésien continue à organiser les îles dans toute la région, je voulais dire dans toute la région, et de normaliser les chiffres en détail. Tout au long de 2016, les îles qui ont été contrôlées et vérifiées ont atteint le nombre de, spécifiquement, 14 572 îles. Directeur général de l'Organisation des zones maritimes ou Pengelolaan Ruang Laut ou PRL du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Brahmantia Satyamurti Purwadi, a dit que la plupart des îles qui ont été normalisées avec succès venaient des chiffres qui avaient été définis par les Nations Unies. Il y a 13 466 îles. En outre, il y a une vérification supplémentaire du nombre d'îles en 2015, jusqu'à 537 îles et 749 îles en 2016. Selon Brahmantia, avec un nombre total de 14 722 îles, le gouvernement indonésien le déposera à la réunion de l'Organisation des Nations Unies d'experts sur les noms géographiques qui aura lieu à New York, États-Unis, août 2017. Ainsi, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies, plus tard l'Indonésie, obtiendra les dernières données totales. La réunion de l'Organisation des Nations Unies d'experts sur les noms géographiques est une session annuelle tenue d'un groupe d'experts du Conseil économique et social des Nations Unies, qui traite de la normalisation des noms géographiques à l'échelle nationale et internationale. Dans une période de 5 ans, on tient une conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques dans le monde. Lors de la session annuelle de 2012, l'Indonésie a signalé un total de 13 470 îles à l'Organisation des Nations Unies et cela a été directement fixé dans cette réunion. Brahmantia a dit que l'enregistrement des îles aux Nations Unies visait à maintenir et à garder la souveraineté de l'État. Ceci est fait pour que aucun autre État reconnaisse les îles. L'Indonésie compte environ 4000 îles sans nom qui ont réellement le potentiel d'être développées comme des lieux touristiques. Par conséquent, le gouvernement va accélérer la nomination de ces îles en y assignant le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et le ministère de l'économie maritime. Le ministre de l'Intérieur, Jayo Kumolo, a dit que jusqu'à présent, le nombre d'îles qui ont été données en nouveau nom a atteint 40%. Selon lui, il avait envoyé une lettre à la tête de la région comme les raisons, les maires et les gouverneurs de fournir immédiatement le nom de ces îles depuis l'année dernière. Le gouvernement vise à accélérer le processus avec la coopération du ministère des Affaires maritimes et de la pêche et le ministère de l'économie maritime. Au minimum, ces îles ont un phare, donc la frontière serait claire. Jayo Kumolo a espéré que ces îles seraient nommées par les non-indonésiens et non-étrangères. Chers auditeurs, voilà cette édition de l'Indonésien Couleur. On se retrouve encore dans la prochaine édition avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Nous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs du RRI Service International, La Voix de l'Indonésie. On se voit encore avec moi dans le programme de magazine musical. Vous pouvez entendre nos émissions par émetteur à ondes courtes sur 925 kHz. Via le streaming audio en www.voi.co.id ou par l'application du RRI Play dans votre smartphone. Dans cette édition, le Voix de l'Indonésie présente des chansons de genre pop d'une chanteuse indonésienne qui s'appelle Yura Yunita. Chers auditeurs, pour commencer cette édition, je vous présente une chanson intitulée Balade de Circus ou en français Les Balades du Cirque. Bonne écoute!
Ku akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat. Kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih. Bersepeda roda satu menari menari di atas tali. Takut jatuh, takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam. Terus berbunyi,
kau datang, saksikan ku di balada sirkus. Wajahku tertutup make up, lepas tubuhmu akan aku tangkap. Hadirmu membuatku lengkap, namun rasaku padamu takkan pernah terungkap. Tak apa asal kau tertawa, musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walaupun tak tahu pasti adakah kau datang malam ini, musikku di balada sirkus. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam ini, musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walau ku tak tahu pasti adakah kau akan datang. Ku ingin kau datang, adakah kau akan datang? Aku ingin kau datang. Kan ku di balada sirkus.
Chers auditeurs, Yunita Rahman, le vrai nom de Yura Yunita, est née dans une famille de chanteurs et compositeurs. En tant qu'une femme qui grandit dans une famille musicale, elle développait un intérêt à chanter et jouer du piano. En 2014, avec le chanteur senior Glenn Fredly comme son mentor et son producteur exécutif, Yura Yunita a sorti son premier album qui a été nommé Yura. La chanson Balade du cirque que vous venez d'écouter est le single de cet album. Chers auditeurs, écoutons notre chanson de Yura Yunita, Tinta dan Rahasia, ou en français, L'amour et le secret. Bonne écoute.
Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang. Terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan.
Oh, ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Rebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. Wow,
chers auditeurs, les chansons contenues dans cet album sont intéressantes car elles ont le style de Broadway, le style moderne, et il y a même celles dont les paroles sont en soudanais, ayant le style musical du jazz. L'album a mérité une nomination dans les 6 meilleurs albums de 2014 par le magazine Rolling Stone. La chanson que vous venez d'écouter, Tinta Danrasia, a été chantée avec une collaboration avec Glenn Fredly et elle est nommée comme le deuxième single dans cet album. Chers auditeurs, écoutons deux autres chansons de Yura Yunita intitulées Intuisi ou l'intuition, suivies par Brawal dari Tatap ou À partir d'un regard. Avec la présentation de ces deux chansons, nous terminons donc notre rencontre aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Au revoir.
Ku hampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Tak pernah tahu, tak
selalu mengarah kepadamu. Tapi tak jua, tapi tak jua, tapi tak jua kau hiraukan aku. Tapi tak jua kau hiraukan aku.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa bawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Bye.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.